Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette 20e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Et pour m'accompagner, Alexis sera avec moi aujourd'hui. Alexis, comment tu vas ?
Salut Desti, salut tout le monde. Mais moi ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. J'espère que tous nos auditeurs, nos chers auditeurs vont bien et que vous êtes tous prêts pour parler d'une magnifique journée qui se présente à nous.
Exactement, on va se concentrer sur deux matchs, hein, c'est bien que tu l'introduises, qui sont très bouillants. Donc dans un premier temps, on va parler du Stade Brestois versus l'OGC Nice, hein, donc on a quand même le deuxième face au troisième. Et de l'autre côté, on va parler bien sûr de l'Olympico, on ne pouvait pas passer à côté de ce match après ce qui s'est passé au match aller. Donc forcément, on va accorder un certain temps à ce match-là. Et enfin, comme d'habitude, hein, cette nouvelle routine, on fera un tour des stades pour parler de l'ensemble des matchs de la journée. On va commencer tout de suite avec le premier match, Stade Brestois 29 face à l'OGC Nice. Juste pour vous rappeler un peu, au match aller, ça s'était terminé sur un match nul entre Nice et le Stade Brestois. Donc un match quand même, on va le dire, assez ennuyant à l'époque. Hein. Et puis bon, Nice, hein, on les connaît, c'est pas l'équipe la plus sexy, mais c'est vrai que ce match-là, c'était pas le plus fou, donc ça a fini sur 0-0. Juste pour rappeler, lors de la pré-saison de journée, l'OGC Nice s'est imposé face au FC Metz 1-0, tandis que le Stade Brestois a réussi l'exploit de faire match nul face au Paris Saint-Germain, 2-2. Et à l'extérieur, il faut le noter, c'est quand même pas mal de faire un match nul au Parc des Princes cette année avec le parcours qu'ils font et le rythme qu'ils font pour l'instant. Aujourd'hui, on a deux équipes, certes, qui sont bien placées dans le championnat, mais deux équipes qui sont sur deux dynamiques différentes. Quand d'un côté, on a le Stade Brestois qui, sur les 6 dernières journées, comptabilise 2 matchs nuls et 4 victoires. De l'autre côté, l'OGC Nice, hein, je ne parle que en Ligue 1, sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites et 3 victoires. Donc certes, les deux équipes sont haut du tableau, mais la dynamique des deux équipes est complètement différente. Alexis, je vais commencer, je vais te lancer. Aujourd'hui, est-ce que c'est un match pour que Brest puisse confirmer leur ambition ? On sait qu'ils sont dans une position où logiquement ils peuvent rejoindre la Ligue des Champions l'année prochaine actuellement. Bon, après, on n'est que en février. Mais est-ce que si demain Brest se donne à fond sur ce match, ben, ça va confirmer leur ambition de rester dans ce haut du classement ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, quelle belle introduction, quelle belle question. En fait, Brest, je les trouve très intéressants. Justement en parlant d'ambition, parce que je pense pas, ayant terminé la saison la saison dernière juste devant le premier relégable, je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir une saison aussi magnifique, aussi extraordinaire que ça cette année. Et justement, l'équipe n'a pas tant changé que ça. Bien sûr, il y a eu des arrivées, il y a eu quelques départs, mais la structure de l'équipe, le coach, etc. reste la même. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément changé d'esprit. Ils se disent juste, voilà, on joue chaque match comme si c'était nos derniers, parce qu'on faisait ça l'année dernière. Et après, bah, cette année, ça sourit. Et voilà, ils n'arrêtent pas de gagner, de faire des bonnes perfs, de battre le PSG presque en faisant match nul chez eux, enfin au Parc. Mais ce qui est beau, justement, c'est que je vois pas le fait qu'ils sont obnubilés par le fait qu'ils veulent être en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense, voilà, ils font leur petit chemin, et ils se mettent pas la pression, et c'est ça qui fait qu'ils peuvent continuer à espérer, en fait, tout au long de la saison. Ça marche plutôt bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que ce match contre Nice, ça va être dans la même lignée que le match contre Paris l'année dernière. ils savent qu'ils jouent un gros. Ils ne s'attendaient pas du tout à être là en début de saison. Et le fait d'être potentiellement en Ligue des Champions l'année prochaine s'ils battent Nice ce week-end, c'est super. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est juste jouer leur foot, montrer ce qu'ils savent faire. Et après, Ligue des Champions, on verra ça en fin de saison. Je pense que dans le vestiaire, ils doivent tous s'en parler un peu, ou peut-être justement pas, peut-être qu'ils l'ont tous en tête, mais qu'ils osent pas forcément en parler, en rigoler trop, parce que pour eux, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, de peut-être jouer contre Modric, Salah, etc. et voilà, ce match contre Nice, qui arrive à un moment où, comme tu dis, Nice est beaucoup plus prenable qu'en début de saison, où ils avaient quand même déjà fait match nul. Je pense que c'est une occasion en or en fait pour Brest de continuer sur sa lancée. Je sais qu'en disant ça, je contredis un de mes premiers podcasts où je disais que je voyais pas Brest continuer, mais ils arrêtent pas de me donner tort et du coup il va falloir que je me résigne à suivre leur magie.
Accepte le fait que Brest est un grand du championnat cette année, hein, que cette année.
Tout comme Nantes. C'est comme Nantes, c'est pas loin.
Alors, je te demanderai de rester poli, s'il te plaît, hein, on est entre gentlemen. Non, mais c'est vrai que c'est ça, c'est intéressant. Et puis moi, ce qui m'a plu aussi avec Brest, et ce qui me plaît, c'est qu'il ne se renie pas. On le voyait face au PSG la semaine dernière. C'est vrai que les équipes ont tendance à mettre des compositions spéciales en fonction, quand ils jouent face au PSG. Et Brest, eux, ils ont décidé de se présenter un peu avec leur compo habituel. Ils sont pas venus avec 5 défenseurs.
Ils n'étaient pas à 10 derrière.
C'est ça. Et puis, ils ont proposé du jeu. On va pas refaire l'analyse du match. Même s'ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'occasions, tu sentais qu'ils essayaient de faire circuler le ballon, de faire bouger le bloc parisien. Enfin, d'utiliser leurs forces, parce que Lesmelou et Magnetti ont fait un très bon match, la semaine dernière. Et moi, c'est ça qui me plaît avec cette équipe brestoise. C'est vrai qu'elle se renie pas, elle joue son jeu. Là, ils sont dans une position où mathématiquement, ils ont atteint le maintien. Enfin, quasiment, ils sont maintenus. Donc, ils ont quasiment plus rien à craindre. On va dire que leur objectif est atteint. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et aujourd'hui, face à un OGC Nice qui n'est pas forcément en forme, voir un Stade Brestois continuer comme ils le font, ça peut être hyper intéressant. Toi, tu as des joueurs que tu penses qui pourraient faire la différence, en tout cas qui t'ont marqué dans cette équipe brestoise et qui peuvent faire la différence face à cet OGC Nice, hein. On sait à peu près comment on y joue. Par exemple, tu vois, moi, je vois... Vas-y. Je voulais te donner un exemple, mais vas-y. Si tu as déjà...
j'ai juste complémenté ta question, en fait, parce que à Nice, on sait qu'ils sont beaucoup dans la défense. Et du coup, le joueur, je pense, qui peut faire la différence côté Brest, ça peut être qu'un attaquant. Parce qu'ils ont des très bons défenseurs, mais je ne pense pas que ce seront les joueurs qui seront les plus en vue lors de ce match. C'est plutôt à leur force de pousser, en fait, de tout donner... dans le jeu offensif, on a vu, enfin, il y a eu des stats qui sont passés depuis longtemps, depuis le début de la saison, mais match après match, en fait, Brest, on voit que, voilà, pendant tout le match, ils sont partout sur le terrain. Et il n'y a pas de zone d'affluence ou de zone d'affluence de joueurs ou de zone de terrain où toute l'équipe de Brest passe, où toutes les offensives passent par cette petite zone. En fait, c'est juste voilà, tout le terrain est utilisé par Brest. Et c'est ça qui est beau aussi, en fait. Qu'ils vont pouvoir peut-être contourner la défense de Nice, qui, on sait, elle reste plus ou moins basse. Après, bon, Dante, peut-être qu'il ne peut plus courir autant que quand il était plus jeune. Peut-être pour ça aussi. mais voilà, en fait, moi, je vais trouver ça très intéressant de voir Brest comme... une équipe qui, pas comme un ogre, mais voilà, en fait, c'est l'équipe qui sera offensive contre Nice, parce qu'on sait que Nice n'aime pas vraiment prendre les devants et prendre le ballon. Et Brest, cette année, le fait. J'avais vu il y a quelques jours que c'était la première saison de Brest. La première saison au 21e siècle où Brest avait plus de 50% de possession en moyenne. Voilà. Okay. c'est une équipe qui s'est révolutionnée cette année et qui a le ballon, qui joue avec et qui l'emmène jusqu'au but.
Ouais, mais complètement. Et puis ce que tu dis, hein, ça en dit quand même beaucoup. Et puis surtout, c'est une équipe qui est assez équilibrée parce que t'as pas de buteur à part entière. Hein. On sait que devant, t'as ce trio d'attaque. Del Castillo, Le Doiron et Steve Mounier, mais au final, tu prends les trois réunis, ça te fait 12 buts. Ils n'ont même pas mis autant de buts que Kylian Mbappé à 3 réunis, et pourtant...
C'est pas un comparatif, ça.
Non, mais bon, voilà. Et pourtant, ça reste quand même une équipe offensivement qui propose un jeu léché, intéressant. Alors, on n'est pas en train de parler de Roga Bonito, hein, je rassure les auditeurs, mais quand tu regardes les buts mis cette année, Brest, ils sont troisième. Derrière Monaco qui en a mis 36, hein, Monaco qui met aussi beaucoup de buts, et le PSG qui en a mis 46, et Brest en a mis 29. Alors c'est le meilleur des autres, si on exclut Monaco, mais ils sont devant des équipes comme Marseille, comme Rennes, comme Lille,
Rennes, ouais.
Qui ont des équipes pour lesquelles on attendait plus de buts. En tout cas,
qui ont des serial buteurs qui... Ouais, qui savent marquer, qui savent jouer, qui ont le goût du but.
C'est ça.
Des buteurs nés.
Aujourd'hui, Del Castillo, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que lui aussi, je l'ai dans mon équipe MPG, c'est pas le mec qui te met 20, 25 buts par saison. Voilà. Mounier aussi, c'est un très bon attaquant, très bon jeu de tête, mais c'est pas des gens qui vont te mettre 20 buts par saison. Donc c'est vrai que c'est intéressant, cette équipe brestoise, en tout cas dans la manière dont elle joue, dans la manière dont Eric Roy, procède avec eux. J'aime bien. C'est la petite équipe surprise. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais j'aime le fait d'avoir cette équipe un peu, on va dire, rafraîchissante.
Il y a Doumbia aussi. Comment il s'appelle?
Camori Doumbia, ouais, aussi. Ouais.
C'est pas qu'il sort de nulle part. Il avait joué une saison entière à Reims l'année dernière. Mais c'était un transfert surprise, je pense. Ça marche. Enfin, il a 5-6 buts, je crois.
Doumbia, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Doumbia.
Après, il pas là.
Ouais, il a 5 buts, ouais, c'est ça. Il a 5 buts, ouais, toujours à la canne.
Toujours en lice.
Toujours en lice, ouais, pour le grand bonheur des Maliens et le grand malheur des Brestois, mais toujours en lice. Donc, cette équipe de Brest est intéressante. Elle peut faire du mal à cette équipe niçoise, d'autant plus qu'on le sait, Nice, là où elle pêche, c'est quand elle prend un but, en fait. Dès que Nice prend un but le premier, c'est là où ça commence à devenir compliqué pour eux. Et du coup, on va enchaîner sur Nice, l'OGC Nice. On l'a dit, hein, Nice, certes, et deuxième, ils sont sur une dynamique qui est différente. Hein. Ils alternent une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. En Ligue 1.
Défaites qui ne sont pas très jolies à voir sur le papier.
C'est ça.
Enfin, défaite contre Le Havre, défaite contre Nantes. Voilà. Et après, ils ont perdu contre Rennes aussi. Ça rentre un peu plus dans le rang, on va dire, parce que Rennes est aussi une grande équipe française. Mais sur un score moche pour le deuxième, pour le dauphin du PSG, de perdre 2-0.
Non, mais complètement. Et puis, Nice, en tout cas, ça restait vraiment l'équipe en forme du moment. Et la particularité, puisque là, Nice va jouer à l'extérieur, c'est que les trois matchs perdus par Nice sont trois matchs joués à l'extérieur. Est-ce que tu penses, du coup, que ce déplacement de Nice au stade brestois, c'est... le déplacement compliqué où potentiellement on pourrait revoir une quatrième défaite niçoise.
Si tu pousses ton analyse jusqu'au bout, tu verrais que c'est trois défaites à l'extérieur dans le nord de la France. Et Brest
Allez,
étant...
c'est vrai.
Oui, il y a Nantes, Le Havre, Rennes.
Ouais.
Ils aiment pas le froid. En plus, en hiver,
Ah,
là,
ils aiment pas
il
le froid. Eh
fait...
ben, ils aiment pas la région de la Bretagne au final.
Ouais, c'est ça.
Ils aiment pas la Bretagne.
Après, Le Havre, c'est pas vraiment breton, mais...
Ah.
Nantes, on est d'accord, c'est la capitale de la Bretagne. Et je salue tous les Rennais qui écoutent le podcast. Mais non, je rigole, je rigole.
Mais ouais, au final, non, c'est bah ils ont du mal face à ces équipes-là. Donc, en tout cas, à l'extérieur, en cette fin et début de enfin, fin d'année 2023 et début d'année 2024, toi, tu t'attends quoi de ce match pour Nice face à cette équipe brestoise? Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir leur poser des difficultés?
Je pense que Nice va surtout vouloir se rassurer en fait après justement cette série qui est pas top. Ils ont un peu plus d'ambition que Brest, je pense. Ils veulent retrouver l'Europe en général, pas forcément la Ligue des Champions, je pense. Mais si c'est la Ligue des Champions, c'est encore mieux. Mais je pense qu'ils vont venir à Brest pour limiter la casse peut-être. Encore une fois, pas que Nice doive penser de Brest comme un ogre, mais oui, qu'ils vont y aller juste pour se rassurer, pour pas perdre déjà, pour pas prendre de but, et après, ouais, peut-être jouer en contre, essayer de, voilà, de trouver des espaces derrière les joueurs brestois, enfin derrière l'équipe en général, derrière le bloc, et de potentiellement voilà jouer ces coups-là. Plutôt que de venir pour poser son jeu, pour imposer son jeu. Ouais, je pense qu'ils vont venir pour. Bien sûr, ils vont vouloir gagner. Et voilà, pour se rassurer, en tant que dauphin du PSG, en tant que champion de l'autre Ligue 1.
Et tu penses que même sans Boga et Mofy, ils peuvent. Ouais, parce qu'on l'a pas. On l'a
C'est vrai
pas
qu'on l'a pas dit
rappelé.
quand même, mais.
Hein. On l'a pas dit. Hein, juste pour rappeler, dans ce match-là entre le Stade Brestois et le Stade Rennais. Donc, côté Brestois, on a Hamavi qui est incertain. Camori Doumbia qui est toujours en sélection. Et on a le retour de Cablan. Et côté Niçois, on a Attal. On ne sait toujours pas comment ça va se passer, hein, même si Farioli a dit c'est toujours un joueur de l'équipe, donc potentiellement on pourrait le voir dans le groupe. Valentin Rozier qui est aussi incertain, Rosario qui est suspendu, et dans les absents, toujours Beka qui n'est pas encore revenu, Boga et Terem Mofi. Donc est-ce que malgré l'absence de Boga et Mofi, on voit, hein, ça peut être compliqué, hein, alors c'est. Ils ont réussi quand même à mettre deux buts face à Lens, mais est-ce que c'est bah c'est ça peut être ce qui va leur manquer justement à Nice pour faire la différence face au Stade
Non,
Bresson?
je pense pas parce que tu as quand même Laborde qui est un joueur, un bon attaquant de Ligue 1 aussi. Bon, il est en phase un peu tristounette,
Ah, c'est
enfin pas
compliqué, hein.
tristounette, mais oui, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais il reste un bon attaquant, il a des bonnes qualités. Après, il y a Guessant aussi, j'en parlais il y a quelques semaines, qui bon. Il a fait une bonne saison à Nantes l'année dernière. Il est revenu de son prêt à Nice et puis il attendait juste que sa chance lui soit donnée. Là, ça fait quelques matchs qu'il joue un peu plus que d'habitude vu qu'il a voilà, vu la
Ouais,
CAN.
les absents.
Et ouais, il a marqué. Enfin, c'est lui qui donne la victoire à Nice
Il obtient le penalty, ouais.
la semaine dernière. Il l'obtient aussi. Ah, il l'obtient et il le marque du coup.
C'est
C'est
lui
bien.
qui obtient le penalty
Ouais,
face à Metz.
lui qui porte l'équipe.
Ouais. Putain.
Et oui, et après il y a aussi Shaw.
Ouais, Ali Chaud qui vient
On attend.
d'arriver, ouais, cet
Ouais.
hiver, ouais.
On attend. Voilà. La raison pour laquelle il est venu cet hiver.
Ouais.
Je pense qu'au bout d'un moment, il va exploser et il va faire tout le bonheur des Niçois. Mais voilà, il faut juste attendre ce moment où il va enfin exploser, qu'il va enfin pouvoir enchaîner les passes D. Je pense
Ouais, et
enfin plus les passes D que les buts, mais.
Surtout, voilà, il connaît quand même un peu, il connaît un peu la Ligue 1. Et
oui.
Après, c'est compliqué hein, d'arriver comme ça en cours de saison. Et,
ça fait et même pas un mois qu'il est là, en plus.
C'est ça.
Ça fait même pas un mois, il a déjà joué 3 matchs.
Donc, non, ça, c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là, mais c'est vrai que moi j'ai un peu des doutes hein, face à cette équipe niçoise, dans le sens où ça sent le en fait d'un point de vue purement pratique, en regardant voilà le momentum de Brest, tu dis bah non, Brest va gagner ce match-là, tu vois. Mais d'un autre côté, Brest vient d'obtenir alors son maintien sur le papier, normalement il devrait être maintenu en Ligue 1. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire face à un relâchement des Brestois? Surtout que voilà, quand tu les écoutes un peu, ils n'ont pas forcément envie d'aller en Ligue des Champions. Connaître l'Europe, ça serait cool, mais voilà, ils sont conscients des difficultés de jouer la Ligue des Champions et de ce que, à quel point ça peut être difficile hein, pour un club. Quand tu vois par exemple le RC Lens, qui la saison où ils jouaient la Ligue des Champions a été en difficulté et ils sont mieux structurés, enfin ils ont un peu plus d'avance que Brest et mieux structurés que Brest, donc c'est vrai que ça peut aussi faire peur. Donc c'est vrai que moi à ce niveau-là je suis pas forcément hyper confiant, au final je suis pas hyper confiant pour Nice.
Après Brest, je pense qu'ils sont pas forcément, ce que je disais tout à l'heure, mais ils ont pas le feu au cul en fait. Ils ont pas la relégation au coin de la rue. Donc je ne pense pas qu'ils pensent à ça à chaque match. Après oui, ça fait peur de jouer avec des champions, mais ils savent qu'ils ont beaucoup d'avance sur toutes les autres équipes qui font pas ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles devraient savoir faire, comme Lyon. Toulouse, etc., Montpellier même. Et surtout que c'est une Ligue 1 à 18 où il y a seulement théoriquement que deux équipes qui descendent. Après, bien sûr, il y a le troisième qui passera les barrages. Mais il y a seulement deux équipes qui verront leur sort scellé dès le 15 mai, je ne sais plus exactement quand ça termine la saison.
Quelque chose comme ça. J'ai plus à date aussi en tête. Ok. Et du coup, toi, de ton côté, on va se concentrer maintenant un peu plus sur le score et la compo du match. En termes de compo, je pense qu'on va avoir quelque chose de classique des deux côtés. Hein.
Côté oui, Bresto, ouais.
Voilà, on aura 10.
C'est pas le moment de faire des petites surprises dans tous les sens quand la moitié.
C'est ça. Déjà que Brest et Nice sont pas les équipes qui changent le plus. Ils ont quand même une certaine structure, hein, surtout en défense au milieu. Alors surtout en ce moment quand il leur manque des joueurs à Nice, non, je les vois pas changer. Hein. Bah pareil en attaque, Chaud qui sent la borde, peut-être Ndia Chaminé, Thuram, Sanson au milieu et puis Bard, Dante, Todibo, Lautomba en défense avec Boulka, super Boulka au cage. Mais ouais, côté brestois. Castillo, Mounier, Doiron, Camara, Lesmilou, Magnetti au milieu, Lala, Chardonnay, Brassier, Loco en défense et Bizot au cage. Rien de surprenant pour toi.
Ça me va. En plus, il n'y a pas de Coupe de France, il n'y a pas d'autres matchs aux alentours cette semaine. Donc les joueurs qui sont là sont reposés, auront joué il y a une semaine pour se garder en jambes. Et voilà, en fait, faut rester sur une dynamique et voilà. Très bien comme ça.
Ok. Au niveau du score, toi, tu vois quoi?
Moi, je vois quand même un match nul. Je vois un 1-1.
Ok.
Entre Brest et Nice. Je vois surtout peut-être Brest mener assez rapidement dans le match. Et puis Nice galérer pendant tout le match. Et Brest qui va avoir envie de pousser pour le deuxième but, juste pour le prestige, la gloire peut-être, et qui vont se faire avoir peut-être sur un petit penalty encore, ou un petit, enfin ce genre de petit but qui fait chier à prendre. Mais voilà.
ok, parce que là ton prono défie toutes les statistiques, dans le sens où
oui, mais j'aime bien défier les statistiques.
Quand Nice prend un but en premier, ils perdent.
oui, je me rappelle. En plus, on est dans le nord de la France.
Ouais, c'est
à l'encontre de Nice, mais ouais, il faut un début à tout.
Ok. Bah moi on va dire, je vais pas prendre de risque. Moi je pense que Brest va gagner. Alors je vois plus un 1-0. Non, je vois même ouais, un 1-0. On va dire ouais, 1-0, 1-0 pour Brest avec un petit but de Del Castillo. Non, un but de la tête de Mounier. Ouais, je
Change d'avis
précipite.
comme de chemise. Hein.
Ouais, de fou. Non, ouais, c'est bon, je suis fixé.
C'est
1-0
bon.
Brest, but de la tête, pardon, de Mounier. Nickel. On va passer au match suivant maintenant, le match en prime time hein, de ce week-end. L'Olympique Lyonnais-Marseille, on se souvient tout ce qui s'est passé au match aller. Donc le match a été le match n'a pas pu avoir lieu puisque le bus lyonnais s'est fait caillasser, Grosso est sorti blessé, le match a été
Un des
reporté.
derniers matchs de Grosso.
Un des
Gros
derniers
match.
matchs de Grosso, ouais, ça a été un passage éclair, il a eu le temps de venir se manger des
De rien
raclées,
faire.
de rien faire, se faire caillasser, repartir. Allez, merci, au revoir.
Merci, au revoir et bon week-end.
Donc voilà, le match a été reporté. Finalement, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 3-0 du coup à domicile. Le match a été rejoué au Stade Vélodrome. Alors là, pareil aussi, on a deux équipes quand même qui sont qui se battent pas pour la même chose. Il y en a une qui se bat pour être européen, l'autre qui se bat pour se maintenir en Ligue 1. Pourtant, l'Olympique lyonnais avait quand même enchaîné en fin d'année dernière, début de cette année, on va dire des bons, plutôt plus ou moins bons résultats. Ils avaient notamment enchaîné 3 victoires. Donc sur les 6 derniers matchs, ça reste quand même 3 victoires et 3 défaites. Marseille, de son côté, pareil, ils étaient sur une bonne dynamique. C'est vrai que, et on va en reparler, la CAN leur a mis un petit coup de frein, où ils étaient sur 3 victoires. Là, enfin, sur les 6 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires et 3 nuls. Mais voilà, les deux équipes rencontrent des difficultés aussi avec le supporter. On l'a vu lors du dernier match. Marseille a fait match nul face à Monaco 2-2 à domicile, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Hein. Ils ont fini le match à 11 contre 9.
9.
C'était assez bon. On en reparlera, mais c'était assez fou. Et de l'autre côté, le Stade lyonnais, ils ont perdu 3-2. Ils ont perdu 3-2, ils étaient même menés 3-0 à la mi-temps par Rennes, on va dire, qui a repris sa revanche du match aller. Toi, ce match Lyon-Marseille, déjà, est-ce que tu penses qu'il va avoir lieu? Est-ce que le bus marseillais va arriver au stade?
Non, oui. Ah oui. Ah oui, la revanche, ouais. Non, mais c'était des faux Marseillais qui ont fait ça à Marseille
C'est
au
vrai.
match aller. Donc, les Lyonnais sont plus intelligents. Ils sauront. Je dis pas que les Marseillais ne sont pas intelligents, bien sûr. Loin de là, cette idée. Non, mais je pense, oui, le match aura lieu. Je pense que les dispositifs de sécurité seront un peu plus renforcés. On sait que pour les Olympico, ils sont toujours très renforcés, mais il y a toujours des personnes individuelles qui arrivent à, voilà, à se faufiler entre tout ça pour semer leur terreur. Mais à Lyon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de problèmes. Il y en aura dans les tribunes, je pense, envers les joueurs. Il y aura des chants, il y aura une grosse ferveur chez les supporters qui vont vouloir leur montrer aux Marseillais qui sont les Lyonnais et se défendre de cette manière-là. Mais je pense pas que ça partira, ou en tout cas, j'espère pas. Et ça me fait penser dans cette direction-là. Mais non, j'espère un match sans frivolité. Voilà, juste un beau match de foot pour une fois, s'il vous plaît.
Ok, bon, ouais. Déjà, ouais, c'est ça. Si on peut avoir un match de foot, déjà, ça serait cool pour commencer. Après, c'est vrai que, et ce qui est intéressant, bon, certes, Lyon a perdu son dernier match. Hein, voilà, à la mi-temps, il y avait 3-0. Je pense que c'était, même s'ils ont réussi à
Ouais.
revenir. Ils ont réussi à revenir. Est-ce que tu penses que l'Olympique lyonnais, avec l'effectif qu'ils ont actuellement, ils peuvent ils peuvent prétendre à mieux. On l'a vu, l'Olympique lyonnais recrute même beaucoup. On ne sait pas. Tout le monde se pose la question comment ils font parce que.
L'argent est quelque part.
Ouais, c'est ça, parce que quand on faisait le podcast Mercato l'année dernière, les mecs, ils avaient leur compte bloqué et là, d'un coup. Là, d'un coup, les mecs, ils ont acheté Matic pour 2,6 millions. Ils sont allés chercher Luca Péri et Adrielson Botafogo pour 3 millions chacun. Orban, l'attaquant qu'on a vu jouer le week-end dernier, 12 millions. Fofana, 17
On a
millions. Ça parle
17.
de Benarama.
Benrama aussi. Mais ça, c'est fait, ça. C'est fait
C'est
aujourd'hui,
fait,
Benrama.
c'est quoi? C'est autour de
Mangala
20
aussi.
millions, 15-20 millions. Mangala,
Non,
pareil, c'est 12 millions.
Benrama c'est 5 et
5?
Mangala c'est
Ok.
25.
Ah bah voilà, j'ai confondu les deux.
Mais voilà.
Voilà, on y est à peu près. Quand on fait le bilan,
Mais
donc.
ça reste des grosses sommes pour un joueur, pour une équipe qui n'a pas d'argent. Et
Bah
enfin,
c'est ça.
qui a des
On
problèmes de fair play financier, etc.
est
En
quasiment à.
Angleterre.
On va être à 70 millions de dépenses là, quasiment.
Ouais. En Angleterre, il y avait une équipe qui faisait ça beaucoup aussi depuis quelque temps, à Everton, mais ils ont enfin été rattrapés il y a
Ouais.
quelques semaines. Lyon, je ne sais pas comment ils font pour rester en dehors des zones troubles de la régularisation, de des régulations européennes. Mais ouais,
Ou
c'est la FIFA à
française.
valider, oui, bah, européenne aussi, mais française, oui.
Ouais. Non, c'est fou, hein. C'est
Mais ouais, si
complètement.
la FIFA a validé ou si l'UEFA a validé, tant mieux pour eux.
C'est ça.
On verra dans 5 ans ou dans 4 ans quand toutes les échéances de ces paiements vont arriver d'un coup. Ils seront en Ligue 2.
C'est ça, s'ils sont toujours en Ligue 1, mais pour revenir au match, avec tous les changements qu'il y a eu là, et les joueurs qui sont arrivés, est-ce que tu penses que Lyon peut poser problème à cette Olympique de Marseille à domicile? Juste avant de te laisser la parole, pour rappeler à nos auditeurs, en termes d'absents du match, côté lyonnais, on parlera côté marseillais après. On aura Le Penant qui est blessé, on a Tagliafico qui est incertain, et c'est tout. Après, le reste de l'équipe, ils sont tous disponibles. Toi, avec cet effectif complet, tu penses que Lyon peut poser problème à l'Olympique de Marseille?
Alors déjà, je vais partir de l'équipe de la semaine dernière contre Rennes, donc qui n'est pas du tout la même équipe qui se présentera ce week-end, vu qu'il y a eu 5 ou 6 nouvelles arrivées depuis, et que chacun de ces joueurs doit pouvoir prétendre à une équipe, à une place de titulaire dans l'équipe. Donc déjà, le fait que toute l'équipe ait changé, ou la moitié de l'équipe ait changé en une dizaine de jours. Je pense que ça, c'est pas de bon augure pour le court terme de Lyon. Bien sûr, sur le long terme, ils vont pouvoir se sauver, je pense. Mais seulement grâce aux points qui auront été gagnés, voilà, en fin de saison. Parce que là, il faut du temps, en fait, pour se mettre en jambes, commencer à s'apprendre, à commencer à se connaître, apprendre à jouer ensemble, etc. Parce que tous ces joueurs, en plus, ils viennent de championnats très différents. Donc il y a eu des championnats belges, suisses, anglais et turcs. Donc c'est même des niveaux très différents. Après, bon, le recrutement a été fait d'une manière logique, je pense. Ils ont un projet derrière. Je ne pense pas que ce projet, justement, sera appliqué dès ce premier match contre Marseille. Donc je vois quand même Lyon avoir quelques problèmes voilà, à se trouver. Je ne vois pas l'entraîneur mettre la même équipe que la semaine dernière. Je pense qu'il va vouloir mettre un ou deux joueurs qui viennent d'arriver. Mais justement, il va falloir qu'ils aient du temps pour apprendre à se connaître et je pense que ça va être compliqué pour ce match précis. Je pense pas que ça partira en 3-0, mais quand même dans le jeu, ça va être compliqué à proposer du beau jeu,
Ok.
malheureusement.
C'est vrai qu'on parle souvent de ce joueur et parce que ça reste un joueur très frustrant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un Cherki sur le banc? Parce que quand on regarde son match la semaine dernière, d'ailleurs il sort à la
Ouais.
mi-temps. c'était compliqué, quoi.
Bah, en fait, Cherki, et c'est marrant, mais il a eu une période où, enfin, pas tout marchait, mais une période de mieux, en fait, où il a enchaîné 3 matchs à marquer, à faire des passes, etc. Et bizarrement, c'était la même époque où Lyon commençait enfin à gagner. Donc, ça peut être lié, en fait, le fait que Cherki joue bien et que Lyon gagne. Mais en effet, avec toutes les arrivées, je pense pas m'attendre à ce qu'il soit titulaire à chaque match. Il y aura un peu, ça tournera un peu plus que dans les années, que dans les semaines précédentes. Mais pour ce match contre Marseille, je pense que Cherki sera quand même là, parce que il va rester sage. Désolé pour ce jeu de mots magnifique.
Je voulais même pas, je voulais rien dire, tu sais, je voulais laisser passer le truc, tu vois, incognito.
Je me suis pris à mon propre piège. Non, mais ça, je ne vais pas vouloir tout changer dès le premier match, en fait, dès les arrivées des joueurs qui ont signé leur contrat ce matin ou hier, ou il y a 3-4 jours. Et même, ça donnerait une mauvaise image, en fait, quand tu as un Cherki dans ton équipe et que tu achètes d'autres joueurs qui sont pour la plupart offensifs, tu peux pas le supprimer de l'équipe, enfin le mettre sur le banc directement. Ça donne voilà, une mauvaise image, même pour le joueur lui-même. Hein, ça va pas le motiver à rester, en fait, sachant qu'il a un grand talent et qu'il peut donner beaucoup de choses à Lyon. Ce serait une erreur, à mon avis, de le mettre sur le banc.
Ah,
Même
mais
si il y a
il le sort
pas
à la
toujours des périodes
mi-temps.
positives. Oui, peut-être aussi.
Contre Rennes,
C'est vrai.
46e minute. Allez, merci, au revoir, quoi.
Ouais. Oui, mais.
Ah, toi, tu l'aimes bien, Cherki. Ah, tu l'aimes bien. Ah, ça
Ah,
sèche.
il me rappelle un peu ces époques de Benzema, Hatem Ben Arfa, ces beaux petits joueurs là, les petits à chaque fois là, j'aime bien.
Ah, les joueurs
Non, mais
ifiches.
je l'aime bien,
Ouais,
je l'aime bien.
je te comprends.
S'il veut venir jouer à Nantes un peu pendant qu'il peut pas jouer à Lyon, bah ça me va.
Ouais, donc du coup, pour toi, tu penses que ça va être compliqué quand même pour l'Olympique lyonnais, malgré. Alors,
Ouais, mais
certes,
une
il faut
dernière
un
chose sur
mot.
Cherki.
Ouais, vas-y, dis-moi.
Désolé, j'arrête pas de couper aujourd'hui, mais une
Non?
dernière chose sur Cherki pour compléter mon argument, c'est que bah, il a une valeur assez importante quand même. Il vaut, je sais pas, 25-30 millions sur le marché,
Ouais, je
d'après
pense.
Transfermarkt. S'ils le font pas jouer, c'est qu'il voit pas le projet tourner autour de lui. Et du coup, il faut le vendre. Il faut profiter du fait voilà, qu'ils peuvent vendre un joueur 25 millions, parce qu'ils le font plus si souvent que ça. Il y a quelques années, ils vendaient beaucoup, Lyon, mais là, ça fait quelques temps qu'ils vendent plus. Et
Bah,
donc, autant le faire jouer, en fait, parce que sinon, il perdra sa valeur.
ils ont bien vendu là l'été dernier entre Malo Gusto, Barcola.
Ah oui, je les avais oubliés, eux.
Ouais, bah, tu
Pardon.
vois. Non, mais t'inquiète pas, je te comprends. Même eux, je pense qu'ils ont oublié leur passage à Lyon tellement ils ont fui vite,
Ouais.
vite, vite dès qu'ils le
Non,
pouvaient
mais
parce qu'ils ont senti le bourbier.
en parlant de Gusto, justement, bah, j'ai regardé le match d'hier, là, Liverpool-Chelsea.
Ah.
Je les trouve magnifiques. Hein.
Aïe.
Chelsea, Gusto, il a fait un choix magnifique de partir à Chelsea. Comme Nkunku d'ailleurs, comme Badiachil, les trois magnifiques. Merci.
Je te jure, cette équipe Chelsea de milieu de tableau, mais bon. Ouais,
Voilà,
je
peut-être qu'il pourrait jouer en Ligue 1. Il
vois.
pourrait se batailler avec Lyon pour la 16e, 15e, 14e place.
Il pourrait, hein. C'est peut-être
Ouais.
l'Olympique lyonnais de première ligue.
Ouais. En soi, ouais. Mais bon, revenons sur notre chère Ligue 1 quand même.
Exactement. Ouais, donc, ouais, bah, tu vois, moi, Rennes, enfin, le match contre Rennes, c'est vrai qu'ils ont fait une première mi-temps qui était juste, voilà,
Catastrophique.
catastrophique. La deuxième mi-temps, tu as des changements. Moi, un joueur comme Nouama, c'est un joueur que j'adore parce que c'est un joueur qui percute, voilà, qui donne beaucoup de mouvements, qui fait mal à la tête aux défenseurs et qui crée surtout des possibilités. On a un Enrique qui arrive, qui marque. Même Orban, j'ai trouvé intéressant devant. Voilà, la Lacazette qui est arrivée a calé toujours son petit but. Donc, en soi, si Lyon capitalise sur cette deuxième mi-temps face à Rennes, je pense qu'ils peuvent proposer quelque chose d'intéressant. Surtout que tu as Matic aussi qui va débarquer dans l'équipe. Bon, on va voir ce que ça donne Matic. Hein. Il faisait rien de flamboyant. Enfin, il faisait pas une saison flamboyante à Rennes. Donc, faut voir ce que ça donne à Lyon. Donc, ça va être difficile.
Il est en fin de carrière.
Ouais, c'est pas faux. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant. Lyon peut vraiment rentrer dans l'Olympique de Marseille. Surtout que, bah, on l'a vu, ils se sont encore fait tirer les oreilles par leurs supporters en fin de match. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui se répète tous les week-ends, mais il y a cette pression-là. Ils jouent à domicile. Ils vont devoir faire quelque chose. Ils vont, même si, encore une fois, quand on reste factuel, Marseille reste quand même au-dessus. D'ailleurs, je vais te lancer sur l'Olympique de Marseille, à moins que tu aies encore quelque chose à dire sur Lyon.
Non, à part qu'ils sont méchants d'avoir battu Nantes pour leur première victoire. Mais bon, c'est pas grave.
En même temps, je vais te dire. Bon, je vais rien dire sur Nantes, après, tu vas dire que je m'acharne.
Le tour de stade, on fera ça pendant le tour de stade.
Exactement. Du coup, on en profite, on va du coup switcher sur l'Olympique de Marseille, hein, leur adversaire. Donc, juste pour se remettre en contexte, hein, l'Olympique de Marseille qui a fait un match nul face à Monaco, match très difficile qu'ils auraient pu remporter si Vitinha n'avait pas loupé autant d'actions. Hein, Vitinha.
Ils auraient dû.
Vitinha d'ailleurs qui est parti au Genoa. Ouais, il est parti au Genoa. Il me semble que c'est un prêt ou non, c'est un prêt
avec un d'achat en fin de saison qui doit être à une vingtaine de millions, je crois.
Mais c'est pas obligatoire, c'est une option.
Non. Okay. Il reviendra.
Ok.
Ils sont pas fous, le Genoa. Ils ont déjà pris Balinovski.
C'est ça. Ils ont dit attends.
Ah, deux fois. Quand même.
Calmez-vous. Et Vitinha qui est parti, Renan Lodi aussi qui est parti en Arabie Saoudite. Ouais. Grosse surprise. Ça, j'ai pas compris parce que Renan Lodi.
C'est 23 millions, mais bon.
C'est vrai.
Marseille n'avait pas forcément besoin d'argent en fait, mais c'est pas grave.
Bah, je me rends pas vraiment compte, tu vois, parce que c'est vrai que Marseille, chaque année, ils arrivent quand même à s'en sortir financièrement. Après, c'est vrai que ça reste 23 millions, mais bon, tu restes quand même Marseille, t'es là pour jouer une compétition européenne, puisque pour l'instant, ils sont 7e. C'est mieux quand même de garder tes meilleurs joueurs, surtout que bah, Lodi, pour moi, c'était un peu le pendant de Klose. Pour moi, ça restait parmi les meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, mais bon. De l'autre côté, ils ont quand même recruté, ils sont allés chercher Quentin Merlin ils sont allés chercher Moubania qui est un avant-centre hein, qui revient de la CAN. On va voir ce que ça donne. Ils sont allés chercher aussi. Non, je sais même pas s'il a joué.
Mais non, il jouait pas beaucoup.
Il est joué, il était sur le banc. Hein. Ils sont partis chercher Ulysse Garcia aussi au Young Boys. Tu connaissais ?
Ça a l'air pas mal. Pas tant que ça, mais oui, un peu. Et en fait, depuis qu'il a signé, je me suis intéressé au profil.
Okay.
Mais ouais, ça a l'air d'être une bonne petite pioche. Hein. Je suis content. Je suis content quand je vois ce genre de joueur arriver en Ligue 1. Parce que je préfère largement ça plutôt que de voir des Matic en fin de carrière venir ou des. Même Renan Lodi, un joueur qui devait être bon mais qui n'a jamais vraiment convaincu à l'Atlético de Madrid. Après, il était à Nottingham. Ça. Ouais. C'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas le même niveau. Je préfère de voir la Ligue 1 comme un tremplin, comme un championnat qui va chercher des joueurs, qui les fait devenir bons, et pas l'inverse, qui est un championnat qui...
Plutôt qu'une maison de retraite.
Voilà, parce qu'à Nantes, on fait ça beaucoup. Je parle beaucoup de Nantes, mais on prend beaucoup de joueurs nuls qui étaient supposés devenir bons un jour, mais il y a 5 ans, et on les prend en se disant « Ouais, c'est bon, ils vont se relancer, t'inquiète. » Et après, on les repère. Ouais, c'est pas.
Non, mais je comprends. Je sens le poids. T'inquiète, ouais, on va parler de Nantes. Et donc, du coup, ils sont allés aussi récupérer Jean Onana et Luis Enrique. Juste pour rappeler.
Luis Enrique, il est juste revenu de près.
Ouais, il est revenu de près de Botafogo. Et juste pour rappeler en termes d'absence, alors aujourd'hui on a Nadir qui a une très grosse blessure, hein, c'est les ligaments croisés, donc il est absent très longtemps comme Valentin Rongier. Force à lui, hein. Côté incertain, on a Kongombia, Murillo et Klose, d'ailleurs Klose qui est sorti lors de Monaco. Alors on parlait d'une gêne, il sera. Voilà, il est incertain, on ne sait pas s'il sera là ou il sera pas là.
Mais Klose, il parlait aussi depuis quelques jours, ils veulent le vendre apparemment.
Exactement, apparemment, ça parle de la Turquie aussi. Ouais. Donc, à tout moment, bon, le mercato finit bientôt, là. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, après, tu as quand même un gros retour de toute leur armada qui était à la CAN. Le grand Chancel Bemba, qui joue dans l'une des meilleures nations d'Afrique.
Tu l'aimes bien, hein. Tu trouves que c'est une des meilleures, mais pourtant, ils n'ont pas gagné à la CAN.
T'inquiète pas. C'est pour nous cette année. Bref. Donc, un gros retour voilà, de leur contingent africain avec Pape Gay, Unaini, Harit, Ndiaye, Sarr. Et le fameux Mumbanya. Alors, on ne sait pas s'ils vont pouvoir tous jouer, hein, ça reste encore incertain. C'est vrai qu'on parlait plus de voir des joueurs comme Unaini, Harit et Ndiaye ou Sarr jouer. Pape Gay, voilà, c'est encore un peu incertain. C'est vrai que lui, sa situation depuis quelques mois est assez compliquée. Hein. Mais voilà, gros retour du côté marseillais. Marseille qui fait un nul face à Monaco. Un nul très compliqué. Hein. Ils auraient même pu perdre ce match. Je pense que si à 11 contre 10 ou à 11 contre 11, Marseille perd ce match.
C'est vrai qu'ils sont à voir juste avant la mi-temps. Ils sont déjà à 11 contre 10 dès la 10e minute. Et juste avant la mi-temps, ils se prennent le but du 2-1. Enfin, du 1-2, du coup.
Ouais, à chaque fois, ils reviennent au score. Hein. Donc, c'était vraiment pas joué. Toi, côté marseillais, voilà, en prenant en compte le retour des joueurs, le contexte du match qui va être très, très chaud, qu'est-ce que tu t'attends de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu penses que, partons du principe que tous les joueurs de la CAN sont revenus, tu penses que eux, voilà, ce match contre Lyon, alors je vais pas dire formalité, mais c'est un match, ils peuvent repartir avec les 3 points?
Ben, je pense que ça peut être et ça doit être un match qui doit en fait servir d'électrochoc en fait parce que voilà enfin le match de Monaco enfin cette semaine en gros doit servir comme électrochoc parce qu'en effet ils ont un match moche la semaine dernière enfin ils doivent gagner ce match 1000 fois et t'as des joueurs comme j'ai rien contre Soglo mais il a pris la place de Joaquín Correa quand même qui Enfin, c'est pas n'importe qui, historiquement. Enfin, pas historiquement, mais voilà, ça fait quelques années qu'il joue.
En termes de joueurs, oui.
Ouais, c'est Joaquín Correa. Et Soglo, bon, c'est un petit jeune, bien sûr, il faut qu'il ait sa chance. Mais dans un contexte où, pendant la CAN, on prend les seuls joueurs qu'on a et que Joaquín Correa est sur le banc, c'est quelque chose que je comprends pas. Et contre Lyon, avec tous ces retours, je pense que ça va donner un gros coup de dynamique, en fait, de dynamisme dans l'équipe, dans les rangs. Même si ces joueurs qui sont revenus de la CAN, ils sont revenus plus tôt que d'autres. Ça veut dire qu'ils sont éliminés, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément très heureux.
C'est ça aussi.
Ils vont peut-être vouloir se revendre, prendre leur revanche, en fait, et jouer enfin leur foot. Dans une équipe qu'il côtoie depuis 10 mois tous les week-ends et c'est peut-être plus facile en fait de se retrouver et de trouver des repères ensemble.
Ça c'est vrai ça. C'est un truc que j'avais pas que t'as raison de mentionner c'est que tous ces joueurs de la CAN ils vont revenir avec l'élimination en tête hein. Surtout les joueurs sénégalais qui étaient vus comme des favoris qui se font éliminer par la Côte d'Ivoire en pénalty en plus. Ouais. Et de l'autre côté, les Marocains.
Les Marocains aussi. Même, enfin, c'est pas Marseille, mais même Hakimi, je sais pas dans quel état il va revenir à Paris.
Ouais, c'est vrai ça. Ça c'est vrai ça. Ouais, logiquement, Marseille devrait, enfin, en tout cas, selon moi, logiquement, Marseille, quand même, devrait
Oui,
être au-dessus
je suis d'accord.
de l'Olympique lyonnais. Mais c'est vrai, quand tu prends en considération, voilà, ce que tu as dit et ce dont on a parlé un peu avant, c'est pas si écrit que ça au final. Je pense que ça, alors, je sais pas qui va arbitrer ce match-là, j'ai pas regardé. Mais il va devoir être au niveau parce que je pense que le match, ça va envoyer. Quand on voit comment ça s'est passé entre
C'est Benoît
Monaco
Bastien.
et c'est Benoît Bastien.
Benoît? Benoît, je crois. Ouais, Monsieur Bastien. Je le connais pas bien, cet arbitre d'ailleurs.
Ouais.
Mais
Puisque
bref.
quand on voit comment ça s'est passé entre Marseille et Monaco, là aussi, va falloir être solide et surtout tenir ce match.
Surtout que c'est un Olympico, ça fait 25 ans que c'est toujours des matchs très très chauds. Même niveau dans le jeu pour l'arbitre, mais aussi niveau score, etc., niveau but, il y a toujours de l'action, il y a toujours des échauffés. C'est un match qui est normalement plaisant à voir, mais très compliqué à arbitrer et très compliqué à jouer, je pense.
Ah, c'est ça. Non, mais complètement, hein, ça, parce que ça, si tu perds le fil de ce match-là, bah après tu te retrouves à mettre des cartons dans tous les sens, ça veut plus rien dire, le jeu il est haché, tu maîtrises plus rien, tout le monde est énervé, et puis bon bah ça les joueurs ils savent le faire. Après moi là où j'ai, on va dire j'ai bon espoir pour Lyon et des craintes pour Marseille, c'est d'un point de vue défensif. Défensivement Marseille, la profondeur c'était compliqué quoi. Ah, c'était compliqué. Bah déjà le premier but qu'ils prennent de Ben Yedder où ils se font prendre dans le dos, le deuxième but où Balerdi se fait complètement balader. Tu vois le but, tu sais.
Balerdé.
Ah ouais, mais c'est ça. Il s'est fait balader. Mais tu le vois sur le truc, il est perdu. Il est vraiment perdu. Il est en mode, bah attends, ils sont où les joueurs? Il est où la balle? Il tourne autour de lui-même. Bon, il marque derrière, mais défensivement, cette équipe marseillaise, sans Mbemba, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas
Ouais.
rassurante. Ça peut être une petite clé pour l'Olympique lyonnais, ça.
C'est vrai. Je suis allé voir pendant que tu parlais, en même temps, je t'écoute, hein, bien sûr, mais je suis allé voir Benoît Bastien. Il a fait beaucoup de matchs assez chauds. Et c'est lui qui a arbitré Monaco-Marseille, d'ailleurs, à l'aller. Et d'autres matchs comme Nice-Lille, Paris-Monaco. Et il n'a jamais mis de carton rouge. Il a mis seulement un carton rouge cette année. C'était lors d'un match dantesque, l'Olympique lyonnais contre le FC Nantes.
Ah
On les
ouais.
retrouve.
Toujours. Même quand on
Du
veut pas
coup,
en parler, ils sont là.
voilà. On perd contre Lyon alors qu'on est en supériorité numérique. Mais bon, c'est pas grave.
Du coup,
Revenons sur
toi.
Marseille-Lyon. Lyon-Marseille.
Bah, justement, du coup, toi, en termes de composition d'équipe, à quoi on peut s'attendre, que ce soit du côté des... On va commencer du côté lyonnais. Toi, à quoi on peut s'attendre du côté de composition d'équipe? Est-ce que tu penses déjà défense à 4, défense à 3, sachant que ouais, Kalaitassa revient aussi, ils ont acheté
Ouais.
Adrielson.
Je pense que la défense à 3, enfin oui, à 3 slash 5, c'est quelque chose que Sage aime bien faire et ça me fonctionne plus ou moins bien la plupart du temps. Là, la semaine dernière, justement, je viens de me rappeler que Cacré jouait défenseur central en fait, parce qu'il n'y avait pas d'autres défenseurs. Mais
Ouais, une
je
sorte de
pense que.
fou, ouais,
Ouais,
de
défenseur, c'est un peu
libéraux,
bizarre.
quoi. Ouais, une sorte de
Voilà.
libéraux.
Mais du coup, je vois quand même la plupart de l'équipe être reconduite, mais en reprenant les vrais défenseurs, donc Caleta Char, Lovren, O'Brien. Après, Cacré qui reprend sa place au milieu, avec ouais, les petits Mata, peut-être ouais, Mata et Maitland-Niles, et Tolisso au milieu. Mata qui sera peut-être lié, enfin ouais.
Peut-être
Voilà, je
Nouama,
donne.
non, sur un côté droit à la place de Maitland-Niles,
Nouama,
non?
ouais. Parce que je sais que tu l'aimes bien. Je
Ouais,
me
ah,
demandais où
j'adore.
est-ce que je pouvais le mettre. Parce qu'en pointe, Lacazette, obligé. Après, ouais, sur une aile, Nouama. Et puis sur l'autre aile, peut-être ouais, Cherki ou pas Cherki. Peut-être justement plutôt un Maitland-Niles ou quelqu'un de beaucoup plus défensif. Parce que Je pense pas que Lyon va vouloir venir sur le terrain en montrant leur armada offensive directement. Peut-être juste faire le dos rond un peu. Et comme tu disais, à essayer de trouver les espaces derrière la défense de Marseille, parce qu'on sait qu'elle est assez fébrile. Donc voilà, grâce à un petit Cherki qui peut sortir de nulle part, peut-être. Ou un
Qui
Nouama, avec
sait,
sa vitesse.
peut-être, peut-être,
Ouais.
peut-être. Et du côté marseillais,
Et côté Marseille, t'en penses quoi, toi?
bah,
Je te
c'est vrai que
laisse oui, mais
c'est
oui, toi.
compliqué côté marseillais parce qu'on ne sait pas trop si on sait pas trop si les joueurs venus de la CAN vont jouer ou pas, s'ils seront
Après,
là
les
ou
derniers
pas.
matchs, c'était non, il y a 2 jours. Donc, c'est peut-être un peu tôt, en effet. Ouais. Il y a seulement Onana qui peut faire United, Chelsea et Cameroun qui en 2 jours. Sur deux continents différents.
On a vu ce que ça donne.
Ouais,
Mais
exactement.
non, après, il y a des joueurs qui le font. Ayew, il est revenu de la
Ah, you,
CAN, il a
ouais.
joué. Bon, ils se sont fait éliminer en poule, mais il est revenu de la CAN, il a joué. D'ailleurs, c'est lui qui met le but
C'est
de
lui qui sauve
l'égalisation.
l'équipe. Ouais.
Donc non, t'avais Ayew, je crois que t'en as un autre aussi, je sais plus qui en revenant de Cannes avait joué direct, mais en soi c'est possible, mais c'est vrai que ça va être compliqué, mais si on part du principe, moi en tout cas si on part du principe qu'ils peuvent jouer, moi je vois bien un petit retour de Ounahini et Harit.
Ouais, Paris.
Au milieu de terrain parce que je pense qu'ils sont assez importants. Bon bah voilà, Klose incertain. Il y a de fortes chances qu'il joue pas, donc fortes
Alors, je
chances
pense qu'il
qu'on le
jouera
voit.
pas.
Ouais.
Ouais. Et faut aussi penser, c'est quelque chose, je viens de penser à ça, mais Gattuso, je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup d'expérience à coacher des équipes avec une CAN au milieu de la saison. Parce qu'en
Ouais.
Italie, c'est un peu plus rare qu'en Ligue 1. Enfin, partout, il est un peu plus rare qu'en Ligue 1. Et justement, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va réagir à ça. Justement, de vouloir plutôt surfer sur les dynamiques des joueurs qui étaient à l'entraînement depuis, voilà, depuis 2 semaines, depuis 3 semaines. Ou des joueurs qui jouaient dans des équipes avec des dynamiques totalement différentes et qui vont. Bah, je pense, sachant qu'il est très demandeur quand même, je pense qu'il va plutôt faire jouer les jeux. Bon, je ne sais plus parler, désolé. Faire jouer les joueurs qui étaient à l'entraînement depuis, enfin, tous les jours depuis une semaine, parce qu'ils travaillent ce match depuis une semaine et
Tiens.
ceux qui n'étaient pas là, bah, étaient pas là. Et du coup, je pense, hein, mais à voir.
Ouais,
Mais.
mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation pour le coup. Pour le
Mais
coup.
un petit retour d'Harit, parce qu'il est quand même très bon, et puis ce serait une occasion magnifique de proposer un match olympique Lyonnais-Nantes, parce que la moitié de l'équipe de Marseille est maintenant nantaise, avec voilà, Rongier, Merlin, Harit, tout ça, c'est nantais. Vertu, ils sont nantais, tout ça.
C'est Nantes,
Donc,
le centre de formation de
et oui.
l'OM.
Et oui, et j'embrasse Steve sur cette phrase-là.
Ouais, donc du coup, pour revenir sur la compo marseillaise, donc ouais, beaucoup d'incertitudes. Bon, je pense qu'au cage, voilà, on aura du Lopez, ça va pas bouger.
Bien sûr.
Défense centrale, Balerdi-Gigot. Sur les côtés, bah voilà, assez complexe aussi, hein, parce que
Mais je
bah,
pense que
t'as
Merlin va
Gauthier.
peut-être jouer, peut-être pas
C'est
titulaire,
ça.
mais.
Merlin à gauche, et puis à droite, si Klose n'est pas là, un Soglo ou quelque chose comme ça, non?
Ouais. Peut-être tenter de mettre Garcia à droite parce qu'il a tenté de le mettre à gauche la semaine dernière. Ça avait plus ou moins bien marché. Donc peut-être essayer de le mettre à droite.
Je suis
À
d'accord.
voir.
Et
Mais la
puis,
grosse intégration pour moi, c'est en pointe. Hein. Parce qu'après, le
ouais,
milieu, il y
bah
en a
la
beaucoup.
pointe. Ouais.
Mais la pointe, il n'y a plus personne là, à part Aubame.
La pointe, bah, t'as Aubameyang, tu vas voir le Camerounais là, qui vient d'arriver, là, je ne me souviens plus le nom. Ouais, non, ça va être. C'est pas simple, simple, simple. Ils
Il y a
sont
eu
pas.
trop de changements en même temps, en fait.
Ouais, Moumbania, pardon. Pour le joueur l'avancée camerounaise. Donc, non, ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Et toi, niveau score, tu t'attends à quoi
Je m'attends à un 2-1 pour Marseille.
Ah ouais, direct, toi, cash.
Oui, pourquoi?
Pas
J'ai pensé.
d'hésitation.
Non, non, non. 2-1, 2-1.
T'as des
Non,
buteurs ou pas?
comme je disais, je ne vois pas une autoroute pour Marseille comme au match aller. Mais je pense que Lyon va quand même avoir des armes et se défendre et accrocher l'OM jusqu'au bout. Mais ouais, 2-1. En tant que buteur, bah, je vois bien ouais, Nouama pour Lyon. C'est pas pour te faire plaisir, mais c'est juste parce qu'avec sa vitesse, c'est juste voilà, pour sa vitesse, pour le fait qu'il arrive à se faufiler un peu sur les côtés et puis se faire oublier surtout aussi et se retrouver derrière Balerdi avec le ballon et oh mince. Et après Lopez qui est un très bon gardien. Et après les deux buteurs pour Marseille, bah Aubame, je pense. Il va enfin prendre les rênes de l'équipe parce que ça fait quelque temps qu'il, je sais pas. Mais c'est la même question en fait pour tous les buteurs. Il est là, mais il n'est pas là. Tantôt il marque un petit but pour rappeler qu'il est là, et après pendant 2 semaines il fait rien.
Ok.
T'en penses quoi, toi?
Bah ouais, j'écoutais ce que tu dis. Hein, j'essayais de me remémorer un petit peu
Merci.
tout ce qu'on a dit sur ce match-là. Et j'ai envie de croire que l'Olympique Lyonnais va gagner. Que voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Mais je pense que je vais te suivre et je pense que Marseille va gagner ce match-là. Ouais, je pense que Marseille va gagner ce match et je pense qu'ils vont gagner. Toi, t'as dit 2-1?
Deux, ouais.
Ouais, pareil. 2-1.
Parfait. Vendu.
Ouais, pareil. 2-1. Je vois bien un but. Ouais, but d'Aubameyang et. Ouais, but
Un
d'Aubameyang
petit
et le
but.
deuxième
Un petit but de Merlin, peut-être.
but. Pour fêter son
Moi, j'arrête.
arrivée. Et ouais, côté lyonnais, un petit but de Lacazette, quoi. Le général, toujours au rendez-vous.
Ouais.
Ok. Bon, bah, nickel. Parfait, parfait. Bon, bah, du coup, maintenant qu'on a parlé de ces deux matchs, on va pouvoir faire notre tour des stades. Donc, voilà, hein, tu connais un peu la machine. Hein, on va rapidement parler un peu de tous les matchs du week-end. Et forcément, on va commencer par le premier match du week-end qui sera Strasbourg versus le PSG.
PSG, PSG, pardon.
Commence pas à me chercher, toi. Donc, pour se remettre dans le contexte, le PSG est sur voilà, une très bonne série, mine de rien, sur les 6 derniers matchs, hein, dans le sens où elle a quand
Sur
même
les
quatre
20 derniers matchs,
victoires, hein,
même.
ouais, même 20 derniers matchs, hein, de manière générale.
Ils ont toujours qu'une seule défaite, hein, contre Nice.
Ils ont toujours qu'une seule défaite, ouais. C'est vrai. Mais sur l'état de forme récent, voilà, ça reste l'une des meilleures équipes avec le Stade Brestois. Donc, ils ont fait match nul justement face au Stade Brestois le week-end dernier. De l'autre côté, Strasbourg, ils ont aussi fait match nul. Donc, pareil, un match qui était assez. Bon, c'était pas le plus excitant
Horrible.
ouais, face au Clermont Foot, hein, où voilà, ils ont fait match nul alors qu'ils avaient ouvert le score. Strasbourg-PSG, Strasbourg, ça reste quand même une équipe qui est en forme parce que Strasbourg, ils sont quand même sur les 6 derniers matchs, 3 nuls et 3 victoires. C'est pas rien, hein, parce qu'ils ont vraiment eu du mal à lancer leur saison et là, on sent qu'ils
En
sont.
plus, c'est contre Lille, contre Marseille,
Ouais.
c'est voilà. C'est contre des équipes qui savent jouer au foot aussi.
C'est ça, donc ce n'est pas des petites victoires, des petits matchs nuls. Donc on voit quand même que Strasbourg, bah, ils ont entamé leur année 2024 sous de meilleurs auspices. Juste pour rappeler, au match aller, le PSG avait gagné 3-0 à domicile, avec des buts de Kylian Mbappé-Lautin, Solaire et Fabien Ruiz. Toi, ce match-là, Strasbourg-PSG, tu prévois quoi comme score et comme type de match?
Bah, Paris, quoi.
Je
C'est compliqué de les
suis
prendre, Paris.
surpris.
Donc.
Je suis
Oui,
très surpris
je sais.
par
Du
ton
coup, je
choix.
vois bah, 3-0 pour Strasbourg. Un triplé de n'importe qui, de Carole Villa. Non, en toute sérieusité. Moi, je vois Strasbourg batailler pendant tout le match parce que c'est une équipe valeureuse. Ils ont des supporters magnifiques. C'est toujours incroyable de jouer à la Méno, même pour, enfin, pour eux, ça leur donne une force incroyable. Mais pour l'équipe adverse, enfin, je vais pas vous faire toute la physionomie de comment fonctionne un stade, mais c'est toujours la même chose. Quand tu rentres jouer dans un stade en feu, c'est toujours impressionnant. Après, voilà, les joueurs comme Kylian, Asensio, etc., ils connaissent les stades en feu, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que voilà, Strasbourg va vouloir faire leur mieux, comme, bien sûr, bien entendu, mais qui vont réussir à tenir tête à Paris pendant assez longtemps, mais qui vont craquer à la fin.
Ok.
Donc ouais, 2-0 pour Paris, je pense.
Ouais, sachant que côté strasbourgeois, t'as quand même pas mal d'absents. Bon, t'en as de long
Ouais.
terme et d'autres un peu moins. Donc t'as toujours, voilà, Fila qui est absent, Motiba absent, Sebas absent, Doucouré
Gamero.
absent, Gamero absent et Seydou Sow toujours en sélection. Côté PSG, bon bah t'as les habituels, que ce soit bon, Kimpembe, je pense que sa saison est terminée. Skriniar pareil, Dembélé qui sera absent. Blessé à la cuisse, apparemment c'est les ischios. Barcola suspendu, puisqu'il a pris un carton. Je sais pas si c'est dû au carton rouge ou il a pris trop de jaune, mais en tout cas il est suspendu.
Ouais.
Et Hakimi ne sera pas là. Il a le droit à quelques jours de repos. Kangin est toujours en sélection et Nuno Mendes en reprise. Je te suis, pas de grosse surprise. Le PSG, je pense qu'ils vont s'imposer. J'ai même envie de te dire, ça va être un 3-0, vite réglé, avec un pareil, un petit. Allez, peut-être pas 3-0, parce qu'il te manque quand même des armes offensives. T'as pas Barcola et Dembélé qui sont quand même tes dynamiteurs sur
Bon
le
faux follet.
côté.
Ouais.
C'est ça, tes deux bons faux follets. Donc, bon, allez, peut-être pas 3-0, mais hein, allez, 2-1. 2-1 pour le PSG.
Ah, tu les vois marquer quand même, Strasbourg. C'est bien.
Ouais, parce que bah, le PSG, ils n'ont pas une défense, ils ont une défense assez fébrile à partir du moment où, surtout à partir du moment où ils commencent à mener au score, ils sont tendance à se
Ouais.
relâcher. On l'a vu face à Brest et même d'autres équipes. Et puis voilà, tu as quand même l'arrivée d'un Beraldo qui découvre le championnat, l'équipe, un peu tout. Hakimi qui sera toujours pas là. Ouais. Donc, non, ouais, je vois quand même un petit but de Strasbourg et je dirais 2-1. Hein.
Du coup, un petit but de Strasbourg pour commencer, on rêve jusqu'au bout et après on se fait avoir.
Non, je vois 2-0 du PSG, un petit but de Strasbourg parce que Paris a arrêté de courir. On va être
Ah,
honnête.
ça me rappelle un ou deux matchs de février,
Hein.
ça. Ou trois.
Ah
Enfin, chaque
ben,
année ça arrive, ça, non?
c'est ça, exactement. Ok, match suivant, Rennes face à Montpellier. Pareil, Rennes face à Montpellier, c'est un match, on va dire, on peut dire de milieu de
De ventre mou.
tableau, hein. Ouais, voilà, le ventre mou du championnat. Montpellier qui a fait match nul le week-end dernier face à Lille, hein, alors qu'ils auraient, je pense qu'ils auraient pu, ils ont loupé quand même pas mal d'occasions, surtout en deuxième mi-temps, face aux Lillois. De l'autre côté, Rennes, lui, ils ont gagné. Donc, ils enchaînent une troisième victoire. Donc, ils ont gagné 3-2 face à Lyon, hein, comme on en parlait, avec un magnifique but de Terrier. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais.
Non, je l'ai pas vu, mais on en a parlé.
Ah, il est magnifique. Ah, je
Mais Terrier,
te.
j'adore ce joueur, donc
Ouais, je.
j'ai hâte de le
Je
voir, ce but.
ah, je te
J'étais
le
en déplacement toute la
conseille. Il est
semaine, mais
magnifique.
ok, parfait.
Il était vraiment magnifique. Et donc, juste pour rappeler ce qui s'était passé donc du coup au match aller entre Rennes et Montpellier. Donc, un beau petit match nul des familles, 0-0, comme on l'aime, à Montpellier.
Les Ligue 1 qui revient parfois.
Je te
Je
jure
révolte. C'est Star qui arrive, mais non.
quand même. Non,
Menos, c'est
0-0.
0-0.
Donc, ouais, un bon petit 0-0 des familles. Toi, Montpellier-Rennes,
Écoute,
sachant que ça
0-0.
joue à Rennes. Ah ouais, 0-0. Ah, t'es dur, t'es dur.
Ouais, bah non, c'est en fait c'est deux équipes qui peuvent gagner parce que c'est deux équipes qui peuvent perdre. Donc justement, je pense qu'ils vont pas vouloir prendre trop de risques l'un comme l'autre et jouer la défense, sécuriser la défense et après voilà jouer comme ils peuvent derrière. Mais ouais, 0-0 parce que Rennes, en général, ils sont pas très 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 bons contre les équipes du milieu de tableau. Ils savent jouer, enfin ils savent gagner contre les gros. Et après, les petits, ils savent les mettre de côté aussi. Mais contre les équipes semblables à elles, enfin, d'après mon expérience personnelle, enfin, d'après les matchs que j'ai regardés plutôt, ouais, ils ont un peu du mal avec les équipes qui jouent moins.
Ah, les rivaux directs, quoi.
Voilà, les revues directes, ouais, exactement. En début de saison, justement, ils ont eu un gros passage où ils ont enchaîné les matchs nuls contre tous les rivaux, en fait, tous les rivaux directs, genre c'était Lille, Brest, Le Havre, Lens à cette époque. Parce que Lens est remonté depuis, mais ouais.
Ouais. Bah après Rennes, ils font une petite remontée sympa là.
Oui, bien sûr.
Ils ont enchaîné trois belles victoires. Mais c'est vrai que ouais, il y a des matchs. C'était assez. Bah, ils ont fait match nul quoi. Comme tu disais, ouais, Lens, Strasbourg, Le Havre. Tout ça, c'est des matchs nuls que.
Des
Enfin,
matchs qu'ils doivent gagner
c'est
normalement,
là.
mais qui n'y
C'est
arrivent
ça.
pas quand même.
C'est ça. Bah moi je vais te contredire. Moi je pense que Rennes va gagner puisqu'ils sont quand même sur une bonne dynamique. Alors certes, il faut qu'ils arrivent à tenir un match 90 minutes parce qu'ils se sont vraiment fait peur contre Lyon. Mais je pense que il y a une. Alors j'ai déjà dit ça quand ils avaient battu Nice, hein, mais je pense que enfin en tout cas j'ai l'impression que ça marche un peu mieux du côté du stade rennais sur ces derniers
Oui.
matchs. Donc moi je vois Rennes gagner, moi je vois Rennes gagner 2-0.
Ok. Avec un grand Matusiva ou pas? Celui qui vient
Avec
d'arriver
un
d'un.
exactement qui vient d'arriver pour une 10 ou 15 millions du stade brestois. Donc
Non, de Reims, voilà.
ouais,
Stade.
stade
Il y a
rémois,
trop de
pardon.
stades en France.
Ouais. Mais ouais, Matuziwa et aussi Alidou Seydou qu'ils ont récupéré à Clermont Foot. Et puis bah Matic qui est parti à l'Olympique Lyonnais. Match suivant, Nantes contre Lens. Donc là on est sur le 3, les matchs du samedi soir. Hein, donc Rennes Montpellier c'est samedi à 17h, Strasbourg PSG c'est vendredi à 21h et Nantes Lens c'est samedi à 21h. Nantes Lens, pareil, petit récapitulatif de Nantes Lens. Donc Lens avait gagné au match aller 4-0.
Je dis rien. Je vois ce que tu
Donc Lens avait gagné 4-0. Donc Lens, voilà, pardon, Nantes. Nantes va se présenter avec quand même pas mal d'absents, que ce soit bah, déjà Ganago, voilà, les blessés de long terme.
Horrible, Ganago, est-ce qu'il lui arrive? Mais bon.
Ganago, Mepiu, on en parlait en off, Comer aussi, Comer la cheville, hein, qui va être absent aussi à un certain moment. Castelletto, on ne sait pas s'il va jouer, pareil, qui revient de la CAN avec Mostafa Mohamed. Marcus Coco est aussi incertain, Beni Traoré est suspendu, et ceux qui sont absents, bah, c'est toujours Moutoussami et Moses Simon qui sont toujours en lice. Qui sont toujours en lice à la CAN. Du côté Lensois, Cabot.
Ils s'affrontent en plus, non? Non, je sais plus.
Attends, c'est Nigeria contre. Ah, j'ai un trou de mémoire.
Pardon, je te lance sur un truc que t'as pas que tu n'as pas préparé du tout, mais Nigeria,
Non,
Angola.
mais.
Nigeria, Angola et
Ah, bah, pas
Congo-Guinée.
du tout. Ah,
Non,
pas
pas
du
du tout.
tout.
Mais ce sera en demi, du coup. Ce sera en demi.
Ah bah non, puisque le Congo va se qualifier. Ouais.
Non, du coup. Ah oui, mince, pardon.
Donc,
N'avais pas compris le truc.
côté Lensois, Cabot absent, Machado incertain qui est en reprise, Gradit suspendu, Kouzanov qui est lui toujours en sélection, mais Coupe asiatique, Guilavogui qui est lui aussi en sélection, Frankowski et Mendy seront de retour. Toi, ce match, quels sont tes pronostics Nantes-Lens, sachant que juste pour rappeler aussi au niveau des dynamiques actuelles, Lens sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites, 1 victoire, et Nantes,
3 défaites si
c'est
tu ajoutes la Coupe de France, mais
Ouais, je voulais pas compter la
ça
Coupe de
reste dans la
France,
dynamique.
je voulais pas enfoncer le couteau, je voulais pas enfoncer le clou, mais que en Ligue 1, 2 défaites, 1 victoire, et côté nantais, c'est 2 défaites et un match nul sur les 3 dernières journées. Donc toi, c'est quoi ton ressentiment sur ce match-là, sachant
Bah,
que ça joue à Nantes?
Lens, c'est une équipe, malgré le fait depuis qu'ils ont perdu en coupe contre Monaco, un match pas qu'il leur a été volé, mais qu'ils ont laissé passer d'eux-mêmes, presque, à ne pas jouer pendant la moitié du match. Ça reste une équipe qui, voilà, depuis le mois de décembre, enfin même avant, ils se sont repris. Le mois de décembre a été très bon pour eux. Là, en janvier, un peu plus compliqué. Donc, bah, après, ils ont joué Nice, Monaco, enfin Monaco en coupe. Après PSG. Donc voilà, c'est des grosses écuries. Ça se comprend, ils sont enfin en phase où il n'y a pas l'Europe, donc peut-être que les corps se relâchent un peu. Mais voilà, c'est une équipe quand même qui fait peur, hein, qui a les armes, qui a l'armada, qui a toutes les armes nécessaires pour battre qui ils veulent. Voilà, il faudra juste faire attention pour Nantes de ne pas se laisser avoir. La chance que Nantes peut avoir, c'est que bizarrement, ils savent bien jouer contre les grosses équipes à domicile. Parce qu'à domicile, Nantes, ils avaient. Bah, après, c'est des matchs nuls, mais contre Monaco, contre Marseille. Ouais, les équipes qui sont vraiment meilleures qu'elles, ils savent les contrer à domicile. Donc peut-être que ça peut leur faire une faveur, ça. J'ai pas regardé d'ailleurs si la tribune Loire est rouverte, parce qu'elle avait été fermée par notre chère Ligue pendant un certain temps. Mais ça peut
Ouais.
aussi jouer, le fait de retrouver ses supporters.
Ok.
Après, je vois un
Ok.
match. Ouais, c'est Nantes et Lens qui n'est pas en forme côté jeu proposé, oui. Donc je vois pas un match magnifique. Mais ouais, encore une fois, un match nul, je pense. Juste parce que j'ai une toute petite affinité pour une des deux équipes et que je vais pas les voir perdre.
Ouais,
C'est
parce
vraiment
que
une toute petite,
Lens,
hein.
Nantes, ils ont quand même récupéré Kadewere en prêt de l'Olympique Lyonnais, hein, donc qui s'est illustré, hein, qui a joué mais qui n'a pas encore marqué.
Qui a raté son penalty la semaine dernière.
C'est ça. Je voulais pas rentrer trop dans les détails pour te faire mal, tu vois. J'ai juste dit qu'il a pas marqué, tu vois. Mais ouais, ils l'ont fait la semaine dernière. Bon, après, voilà, il y a eu les départs de Merlin ou encore de Hudson. D'accord. Ah, qui est parti au Glasgow de Guerre. Vous avez des joueurs, quand
On a acheté
même.
beaucoup de Nantes a acheté beaucoup de joueurs cet été. La moitié ne joue pas. Ils ont viré l'autre moitié. Et on a acheté plein de joueurs encore cet hiver. Donc ouais. Ok.
Ok. Donc, ouais, ça va être un match. Ça va être un match. Bah, clairement, Lens, faut qu'il Lens, ils veulent garder le rythme. Et si leur objectif c'est d'accrocher les places européennes, en tout cas, voilà, la place de cinquième, parce qu'ils sont pas très loin au final. Ils ont 3 points de retard sur Lille. C'est le genre de match que tu dois gagner. Tu peux pas faire un match nul ou perdre contre Nantes. Donc moi je pense que et puis Lens est quand même enfin sur une bonne dynamique, hein. Il y a Diouf qui fait un début de deuxième saison qui est plutôt intéressant. Voilà le petit El Hanaoui qui a encore fait une passe décisive. Bon, les attaquants ne marquent pas, mais c'est, on va dire, un truc, quelque chose qu'on retrouve un peu dans toutes les équipes de Ligue 1. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est plutôt en forme. Donc moi je vois une victoire de Lens. Ça va être compliqué puisque c'est quand même à l'extérieur. Donc je vais dire un petit 1-0 pour Lens.
Okay. En plus, Nantes perd un de ses gros joueurs, Quentin Merlin.
Ouais.
Leur mercato est un peu bizarre défensivement, où ils ont enfin fait partir 111. Et les supporters nantais me suivront sûrement sur cet avis. Et en fait, ouais, c'est une équipe qui n'est pas vraiment stable, enfin pas vraiment équilibrée, je pense. Ça penche beaucoup trop à droite, que ce soit en attaque ou en défense. Donc à voir, à voir. Je vois aussi que Lamine Diack a été prêté aux États-Unis. Lamine Diack, un joueur que Nantes avait acheté l'année dernière, qui sortait d'une saison en Turquie et qui n'a pas joué un seul match.
Il était pas prêt.
Non, il était prêté aux États-Unis justement. Il a passé 6 mois avec Nantes, mais il a pas joué parce qu'il était pas au niveau.
Bon, rien de fou.
Next. Ouais.
Ouais, voilà. Match suivant. Monaco Le Havre, le petit match du déjeuner, hein, le match de 13h, hein, le match sieste. Pourtant, c'est
13h, c'est l'apéro encore, hein, le dimanche.
13h,
c'est sieste, le match de 15h.
Ouais, 13h, tu finis le plat, tu vas enchaîner le fromage, quoi. T'arrives au Dijon. Tu vois le Dijon qui débarque. Voilà. Et pourtant, c'est quand même deux belles équipes, hein, Monaco-Le Havre, hein, deux belles équipes qui proposent du jeu. Donc Monaco qui est quatrième, hein, qui est sur une victoire, une défaite et un nul sur les trois dernières journées, donc qui a fait un match nul face à Marseille la semaine dernière. Et de l'autre côté, Le Havre qui a aussi fait un match nul qui était assez ouf face à Lorient. Ça a fini 3-3 avec ce incroyable, avec ce magnifique but d'Ayou, hein. Lorient qui pensait avoir la victoire, mais finalement ça leur échappe. Et ils ont battu Lyon avant 3-1 et ils avaient perdu contre Reims, donc voilà, sur les trois derniers matchs. Le Havre, ça reste une équipe quand même qui est assez stable, mais qui va affronter une équipe de Monaco qui propose beaucoup de jeux en attaque, mais alors ce que c'est manque de chance, c'est vrai que l'arbitrage a été très dur la semaine dernière face à Marseille, mais qui propose beaucoup de jeux offensivement, mais qui prend aussi, parce que faut le noter, qu'il prend aussi beaucoup de buts, hein.
Après, à l'aller, c'était Le Havre qui va dominer, justement.
Bah, c'est ça.
0-0, mais Le Havre avait dominé pendant tout le match. Et Monaco... Enfin, pas tout le match, mais...
Ouais, pas tout le match, mais voilà, et c'était...
Les bonnes occasions, c'était à Brest. Monaco ne faisait rien. Ils avaient le ballon, mais ils faisaient rien.
Donc, ouais, c'est dommage de l'avoir mis à 13h, mais bon. C'est pas nous qui choisissons les heures de diffusion, parce que pour moi ça peut être un très beau match Le Havre-Monaco. Et juste pour rappeler en termes d'absence, donc voilà, côté Monaco il y a des noms qu'on va reciter à chaque fois qu'on va parler d'eux, hein. C'est Mbolo, Henrique qui seront pas là de la saison, et Matadzo qui s'est blessé au quadriceps. Ceux qui sont incertains, ça va être Balogun, Jacobs et Diata. Les suspendus, Maripane qui a pris un carton rouge la semaine dernière, ainsi que Zakaria qui a été exclu. Et enfin, côté absent, on aura Singo, Camara et Minamino qui sont avec leur sélection à la CAN et en Coupe d'Asie. Côté Havrais, beaucoup moins d'absents, hein. On a Lokbo qui est blessé au fessier, Salmier incertain. Et les absents sont Touré et Bayo qui sont eux aussi en sélection. Toi, Le Havre-Monaco, quels sont tes pronoms?
Moi, je vois quand même Monaco rentrer dans le rang et puis imposer leur supériorité sur le papier. Enfin, la supériorité qu'ils ont sur le papier, ils vont la transposer sur le terrain. Et ils vont pas les gagner facilement, mais ils vont faire mal à cette équipe du Havre. Et ouais, ils vont prendre leur dû, ils vont prendre leur victoire. Pas un 3-4, 5-0, mais oui, peut-être un 2-0 ou un 3-1. Un match quand même assez serré, mais dans le jeu, mais quand même avec des buts qui sont clairs et nets, précis.
Ouais, je pense que je vais suivre aussi sur ce coup, hein, parce qu'à la différence du match aller où c'est vrai que Le Havre avait fait plus le jeu que Monaco, là on sent quand même un Monaco, surtout offensivement, qui est vachement intéressant, que ce soit Ben Yedder ou encore Anna Kliouche, qui sont devant incroyables. Et puis voilà, au milieu de terrain, il y a encore des choses à revoir, hein. On sent que la semaine dernière, l'entente Golovin Fofana, c'est quand même bien passé. Bon, après, ils étaient à 11 contre 10 rapidement, donc c'est vrai que c'est compliqué à juger. Hein. Mais j'hésite quand même parce que Le Havre, c'est une belle équipe et ils jouent à domicile.
Non, c'est à Monaco. C'est à Monaco le match.
À Monaco, pardon. Ouais, mais bon, jouer à Monaco, c'est comme jouer à domicile hein, pour toutes les équipes. Hein.
C'est bien ça.
C'est la même chose. Mais ouais, vas-y, je. Non, moi, je vais partir sur un match nul. Je vais dire un bon petit 2-2 des familles. Ouais, un bon okay. 2-2. Je sens le bon gros match avec un 2-2.
Ok.
Le Havre Monaco.
Ouais, j'espère avoir beaucoup de buts, donc ouais, ça me va.
Ouais, je sens qu'il va y avoir du but. Parce que le match suivant, Metz-Lorient.
Eh oui, parce qu'il y a des buts qui arrivent sur ce match-là, parce qu'après, oui, le reste de la journée sera très compliqué.
Ouais, parce qu'après, donc voilà, il y a le fameux multiplex de l'après-midi. Ouais, de l'après-midi, de 15h. Hein, ouais. Donc Metz-Lorient. Metz-Lorient. Ouais, là, c'est la sieste. Là, Metz-Lorient, au match aller, il y a eu 3-2 pour Metz. Donc voilà, encore un match que Lorient n'arrive pas à tenir et qui lui a échappé, hein, puisque Lorient menait quand même 2-0 à la. Non, pardon, 2-1 à la mi-temps et finalement ils perdent 3-2.
Dans les dernières minutes en plus, si je me rappelle
c'est
bien.
C'est ça, ouais, au niveau de la 82e minute.
Ah oui, sur penalty en plus, ouais.
Donc, les Lorientais vont être heureux parce que celui qui a mis le penalty, Jalot, est blessé aux ischio-jambiers, oui. Donc il ne sera pas là. Lamine Camara est incertain. Herrel, suspendu pour Metz. Côté Lorientais, c'est beaucoup plus épars, hein, on va dire, parce que Boisregard blessé, Métatars, Mendy, Benjamin, Isque, Jambier, Tossin, Gomis, Yongwa, Mendy, Dieng, incertain, donc les joueurs qui revenaient de la CAN. Kaloulou et Doucouré sont toujours en sélection, mais par contre, il y a le retour de Tiemou Bakayoko. Deux clubs.
D'ailleurs, j'attends de le voir confirmer, enfin pas confirmer, mais faire de belles choses à Lorient, parce que c'était un joueur quand même, qui avait beaucoup de qualité. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il s'est perdu bizarrement dans un club où Chelsea. Ah.
Encore. C'est comme ouais, Nantes. Au partout, final, c'est bizarre, dès que tu grattes un peu, ils sont partout.
Ouais. Ouais. Bon, en fait, il y a deux centres de formation en Europe, Nantes et Chelsea.
Nantes et Chelsea. Voilà.
Chelsea est un centre d'achat, mais
ouais, bah, ouais, mais c'est ça. Ils ont les fonds illimités. Pourtant, c'est plus les Russes qui sont au pouvoir, mais bon, apparemment, ils ont toujours autant d'argent. Bref, donc Metz, qui est sur une série de défaites, hein, donc trois défaites de suite sur les trois derniers matchs. Et Lorient, c'est kiff-kiff. Ils ont fait match nul la semaine dernière, mais ils étaient sur deux autres défaites avant. Donc, Metz-Lorient, quels sont tes pronostics ?
Moi, je vois Metz gagner. Je vois un match, encore une fois, horrible à regarder, bien sûr, comme on l'a déjà dit. Et je suis désolé pour tous les supporters messins ou lorientais. Mais je vois, oui, Metz gagner, parce que c'est une équipe quand même qui ne fait pas vraiment dans la durée. Enfin, c'est une équipe qui enchaîne pas les victoires, mais qui en sort quand même de son chapeau assez régulièrement. Et je pense que cette année, ils vont vouloir forcer le destin et ne pas refaire l'ascenseur. Et les matchs contre Lorient, c'est typiquement exactement le type de match qu'il faut gagner. Parce que ça, c'est un match à 6 points. Donc ouais, je les vois gagner quand même sur un petit 1-0 des familles.
Sachant en plus que Lorient a perdu Fèvre, qui est retourné à...
Oui, c'est vrai ça.
Qui en a à Bournemouth.
Ah, on n'en a pas parlé. Oui.
On n'en a pas parlé. Il faut saluer aussi la fin de carrière de Vincent Le Goff. Merci Vincent.
Merci
Vincent pour ce que tu as donné à la Ligue 1.
À la vraie Ligue 1.
Exactement, exactement.
À la Ligue de Talents.
Ah non, ça c'était la vraie Ligue, hein, celle qu'on aimait. Bref. Ouais, ça fait quand même. Bon, alors certes, Fèvre, c'était pas. Il a apporté pas mal de choses à Lorient, faut le dire. Il n'a
Oui.
pas réussi à marquer enfin, de son empreinte ce début de saison, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à Lorient.
Mais tu peux pas sauver une équipe tout seul, hein, en fait.
C'est ça. Exactement. Non, mais c'est complètement ça. Il y a
C'est
tellement
juste
de.
Mbappé qui fait ça, c'est tout. Mais bon, tout le monde n'est pas Mbappé.
Tout le monde n'est pas Mbappé. Et quand de l'autre côté, bah, tu as quand même Metz qui a récupéré qui est, Mikotadze, qui
Ouais,
rentre à la
ouais, ouais.
maison.
Très décevant.
Non, je pense que je vais te suivre aussi sur ce coup-là. Et je vais partir sur une petite victoire de Metz, surtout qu'ils ont besoin de gagner après l'enchaînement de défaites qu'ils ont. Pareil, un petit 0, 1-0, 1-0 Metz.
Parfait. Vendu. Adjugé vendu.
Bon, t'achètes?
Mes copains
Nickel.
messins seront contents. J'ai pas beaucoup de copains lorientais, donc désolé,
Wow,
mais ouais,
c'est pas.
mes copains messins seront contents.
Match suivant, c'est l'autre match de l'après-midi, hein, de 15h, Lille-Clermont. Pareil, on va faire. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est la journée des équipes qui sont sur des dynamiques différentes. C'est le haut du tableau
Oui,
face au bas du tableau, quoi.
c'est vrai.
Lille-Clermont, c'est le 17e face au 5e. Certes, Lille a fait un match nul lors de la dernière journée avec un très bon chevalier, hein, qui pour moi, c'est lui qui ramène ce match nul de Montpellier. De l'autre côté, Clermont a aussi fait match nul dans un très grand match face à Strasbourg. Clermont qui avait quand même gagné avant, hein, face à une petite équipe que tu dois connaître de notre championnat, le FC Nantes. En termes d'absents, que ce soit côté Lillois et Clermontois, voilà, on est sur rien de scandaleux, hein, sachant que voilà, Diakité et Caballero sont blessés, Cabella est incertain, comme Thiago Moraes. Bouadi est suspendu. Et côté Clermontois, on a quand même un peu plus d'absents. Bella, qui est toujours en sélection. Konaté, cheville. Andrich, enfin, ceux qui sont incertains, on a Andrich, Virginus, Nicholson et Moridiao. Toi, lorsque voilà, ce match de Lille-Clermont.
Moi, je vois Lille gagner parce que c'est le favori et que parfois il faut quand même mettre le favori. Mais attention à Nicholson qui côté Clermont, qui est, je le connaissais pas du tout. Et là, il enchaîne 4 matchs où il fait bah, but ou passe dé ou enfin il est vraiment bon. Donc peut-être qu'il peut sortir quelque chose contre Lille aussi. Shamar Nicholson. Mais dans l'ensemble, clairement, c'est une équipe qui sait faire le dos rond, mais quand même qui a des lacunes, où il y a toujours un ou deux buts qui passent parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, parce que ouais, parfois, tu peux juste rien faire. Et je pense que Lille, c'est en plus c'est une équipe qui ne domine pas ses matchs, qui a toujours du mal à attaquer et qui a toujours une ou deux occasions qu'ils arrivent à marquer. Et je pense que ça peut se conformer, se conforter tous les deux pour une petite victoire, ouais, encore une fois, 1-0 de Lille.
Ok,
Peut-être 2-1.
sachant que Clermont-Lille avait fait match nul au match aller, hein, pareil, un
1-1, je
beau
crois.
petit
Ah non,
0-0.
0-0. Bah
Ouais,
oui.
c'est la Ligue 1, 0-0. Oh, on est méchant.
Oui, on est méchant. Je ne sais pas
Ouais,
pourquoi
non.
on nous autorise encore à faire des podcasts sur la Ligue
C'est ça, exactement. Ouais. Mais qui va nous arrêter, hein?
1. Ouais. Personne. Notre limite, c'est la galaxie.
Exactement. Ouais, mais je vais te suivre pareil sur ce match, hein. Je pense que même si voilà, j'aime bien cette idée de petits outsiders qui peuvent faire quelque chose, là, Lille joue quand même à
Mais Lille n'est
domicile.
pas un non-outsider, hein. Ils sont outsiders de la Ligue 1 quand même.
Ouais,
Lille.
mais par rapport à Clermont.
Ouais, mais les rapports de force. Ouais, bon, on verra.
Ouais, y a un petit
Je
rapport de
peux te laisser
force,
parler
mais.
aussi.
Mais voilà, tu vois, c'est Lille, ça reste là aussi dans la Ligue 1, mais entre Lille et Clermont, je pense que là, il y a quand même pas trop photo, et surtout que Lille, faut qu'il gagne quand même. Pareil, hein,
Ouais.
toujours dans cette logique de suivre le rythme, hein, parce que bon, c'est
Ouais, faut
vrai
pas oublier
que
que les autres équipes sont que à 3 points derrière. Hein. Enfin,
c'est
la huitième
ça.
place, en gros, elle est 3 points derrière, donc c'est
Ouais.
pas loin.
Non, c'est pas loin du tout. Donc, ouais, faut en ranger des points. Donc, pareil, jouer un petit 1-0 de Lille avec un petit but de Zegrova.
Zegrova. Ok.
Ouais, un petit Zegrova.
Et
Et
David, d'ailleurs,
enfin,
il joue quoi? D'ailleurs, je perds du
David,
temps,
je sais
mais
pas, il joue au foot encore ou je sais
je sais
pas.
pas. Peut-être au soccer
Bien.
au Canada.
Ouais, perdu de vue. Dernier match pour conclure ce podcast. Brest, non, qu'est-ce que je dis, Brest face à Nice.
Reims-Toulouse.
Pas du tout,
Après,
Reims.
Brest-Nice aussi, tout à l'heure, mais.
Ouais, mais ça, on l'a fait. Hein, on a passé du temps
Oui,
dessus.
pardon.
Hein. Tu t'en souviens déjà plus.
Sauf si on change d'avis entre-temps.
Ah, c'est trop tard. C'est
Hein.
enregistré, là, c'est dans la boîte. Reims-Toulouse. Reims-Toulouse, juste pour rappeler au match aller, il y avait eu aussi un match nul, 1-1. Comme quoi, beaucoup de
Ouais.
matchs nuls au match aller entre ces différentes équipes dont on a parlé
Ce week-end,
aujourd'hui.
là.
Donc ouais, Reims avait fait match nul face à Toulouse, donc 1-1 à Toulouse. Pareil, pour donner un petit ordre d'idée en termes d'absents côté toulousain. Et Rémois. Donc, côté Rémois, on aura l'absence de Buzy et Atangana qui sont blessés. Abdelhamid et Richardson sont incertains. Les deux reviennent pareil de la CAN. Les absences, ce sera Diakité. Donc, Ibrahim Diakité, Oumar Diakité, Ito et Nakamura qui sont en sélection. D'ailleurs, Ito qui est un peu dans la sauce avec une affaire d'agression au Japon. Mais bon, cela ne nous concerne pas.
Concerne pas.
Et côté toulousain, absence de Aboukral, mais bon, ça c'est pour la saison. Hein. Genro et Keben, Costa et Diarra en sélection, et on aura le retour de Spiering et de Magri. Pareil, en termes de dynamique de club, Toulouse, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites et 1 victoire. Donc ils avaient perdu la semaine dernière face à Lens 2-0. Et de l'autre côté, Reims, c'est un match nul, un petit match nul face au FC Nantes, un beau petit 0-0 des familles. Et par
Comme on
contre,
les
ils
aime.
avaient, comme on les aime, ils sont sur 2 victoires et un match nul. Reims contre Toulouse, quel est ton pronostic?
On va rester sur un match nul, je pense. Parce que, ok, Reims, ils sont sur une dynamique qui est un peu meilleure que Toulouse. Ils battent surtout Monaco il y a 2 semaines à peu près, ouais. Voilà. Et puis après, Toulouse qui perd contre Lens et Paris seulement. Mais oui, je pense que c'est
Seulement.
deux équipes qui vont s'anéantir. Ouais, ça, oui, s'anéantir entre elles et faire un beau 0-0 encore.
Ah ouais, tu vois pas Reims. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un
Non.
peu compliqué pour eux, ils ont pas mal d'absents devant, mais.
Bah oui, surtout Ito, il est très important. Ils viennent de perdre. J'ai oublié son nom depuis, mais celui qui est parti à Rennes, là. En
Oui, bah
attaque.
oui, on en a parlé, oui.
Et du coup, on l'a oublié.
C'est Aïdou Selissou.
Oui, voilà. Donc, un autre de leurs joueurs assez important. Donc, Reims, voilà.
Non, qu'est-ce que je raconte? Non, Selissou, il était à Clermont, je raconte n'importe quoi. C'est
Ah.
Matosiwa qui perd.
Ah oui, voilà. Excuse-moi. J'ai confirmé sans vérifier. Je te faisais confiance, les vues. Quelle erreur.
Ah, les joies du direct. Ça sera pas.
Voilà, exactement.
Pour montrer qu'on est vrai, hein. Ah, voilà, on peut se tromper aussi.
Tout
on
est naturel.
Voilà, c'est naturel.
Adil Rami ne dira pas qu'on parle de Pamela Anderson.
Tout est vrai. On t'embrasse.
Bref. Oui. Bref, Reims a perdu beaucoup de ses joueurs pour le mois de janvier-février. Et ils n'ont pas forcément remplacé leur cadre. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, pour eux. Ils ont acheté un petit joueur d'Espagne que je ne connaissais pas, d'Almeria. Sergio Aquiemé. Mais c'est tout, en fait. Donc, à voir. Ah non, il y a Stambouli aussi qui est venu, c'est vrai. Benjamin Stambouli, j'avais lu ça il y a quelques jours et j'étais étonné qu'il jouait encore. Mais en effet, il n'a que 33 ans. Et il vient d'arriver à Reims. Donc, ouais, pourquoi pas.
Ok.
Mais pour ce match, non, ça, pour ce match, ouais. Un beau match nul, très nul.
Ouais. Bah surtout ouais, parce qu'après côté Toulouse il y a eu quelques achats voilà de joueurs un peu bah qui viennent de notamment de Belgique, les Pays-Bas là avec Gbo, Amulic ou encore Babika, enfin c'est vrai que Toulouse ils sont pas dans une bonne phase hein. Ils ont fait enfin je trouve que la direction qu'ils prennent est un peu étrange, alors ils se maintiennent, hein, mais c'est pas foufou. Ouais. Mais je vais te... Ouais. Non, allez, je vais dire quand même un 0 pour Reims. Je pense que Reims, faut qu'ils se reprennent quand même un peu. Surtout, bah, si eux aussi, ils veulent rester dans le tempo.
Et justement, est-ce que, en disant ça, est-ce que tu les vois terminer dans le bon wagon en fin de saison ? Je sais, je fais un peu du hors-sujet, là, mais...
Dans les top 5, Reims ? Non.
Non, dans le top 6, enfin, dans l'Europe, quoi.
Non.
Non ?
Okay. Non.
Est-ce que Marseille, Lens, Rennes, ça rentre dans le rang, ça ?
Ouais, mais non. Je pense que Reims, ils finiront derrière.
Ok.
Donc, ouais. Mais je les vois quand même gagner ce week-end.
oui, bien sûr, tout n'est pas lié. Il y a encore beaucoup de points à perdre ou à gagner.
Mais ouais, je vois quand même gagner ce week-end. Bref, sur ces belles paroles, Alexis, je te remercie de m'avoir accompagné pour ce podcast qui était très intéressant.
Merci à toi.
Des très beaux matchs, nous l'espérons, avec beaucoup de buts. Généralement, quand on commente, c'est qu'il y a des buts après. la semaine dernière, on n'a pas commenté la journée. La journée n'a pas été ouf. Là, on va commenter. Je suis sûr que ça va être génial.
Oui.
Dans tous les cas, exactement, il n'y a pas de raison. Dans tous les cas, Alexis, merci à toi de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, encore une fois, que ce soit X, Fred, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, telles que Spotify, Apple Music. N'hésitez pas à venir nous parler si vous avez envie de nous parler ou nous écouter même nos épisodes spéciaux, le chant des supporters. On en a deux pour l'instant et on travaille sur un troisième. Dans tous les cas, merci encore à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite pour Stadium Ligue 1, donc le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.